La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure. Bonjour, bonjour à tout le monde. On est autrefois là pour lire des brochures. Aujourd'hui, on est pas mal, hein. On est quatre.
Salut.
Salut. Et la brochure s'appelle « Comme un chien enragé ». Lettre anonyme d'un détenu de la prison de la santé sur les conditions de détention et sur la prison en général. Mars-avril 2011. Pour en finir avec toutes les prisons. Pour écrire un texte comme celui-ci, je suis bien obligée de partir de ma propre expérience, de partir du particulier pour discuter de l'universel. Je suis actuellement incarcérée en détention préventive à la prison de la santé à Paris. J'espère ici réussir à donner un bon aperçu de cette vie de chien, une plongée en apnée dans l'univers carcéral. Je suis pour la destruction totale de tous les lieux d'enfermement, quels qu'ils soient. Et avant mon incarcération, je participais déjà aux luttes anticarcérales et avais donc développé un certain intérêt pour la condition du prisonnier. Et pourtant, la prison telle que je la vis aujourd'hui est assez éloignée de la façon dont je pouvais me la représenter concrètement, vue de l'extérieur. Ce texte tend donc à s'inscrire dans la modeste perspective de faire visiter cette tôle, sans compromis et à titre de contre-information, à tous ceux que cela intéresse, mais surtout pour tous ceux qui luttent contre la tôle et pour qui une meilleure connaissance de ce qu'est réellement la prison ne pourra qu'aider à mieux la combattre et à comprendre les mécanismes qui s'y jouent. Ce texte est donc basé sur mon expérience personnelle, ainsi que sur des témoignages et informations recueillies auprès d'autres détenus à la maison d'arrêt de la santé, qui n'est qu'une tôle comme une autre. Il s'adresse à tous ceux, forcément révolutionnaires, qui souhaitent la destruction de tous les lieux d'enfermement, mais aussi aux proches de détenus et aux détenus eux-mêmes.
Ça pue, ça s'effrite, ça tombe, ça s'écroule, ça fuite, ça suinte. Ils sont fiers de leur prison. Elle a presque 150 ans et la moitié de ses bâtiments se sont déjà effondrés. Ou sont en tout cas fermés en prévision d'une rénovation d'ampleur. Il reste le bloc A et ses quatre étages. Au rez-de-chaussée, les détenus considérés comme calmes et sans problème, trois détenus par cellule de 9 mètres carrés. Au premier étage, des cellules de 9 mètres carrés où sont parqués quatre détenus par cellule, parfois sur un matelas improvisé au sol. Il y a une salle de douche infestée de champignons, des cafards et des déchets qui s'entassent, on y attrape facilement hépatite et autres maladies. À l'intérieur, quatre douches mal séparées pour la cinquantaine de détenus de toutes les tâches, dont une totalement ouverte pour bien marquer le fait qu'il y a une hiérarchie entre les détenus et que c'est les détenus eux-mêmes qui la mettent en place. Selon les matons, c'est l'étage où sont parqués les détenus les plus indisciplinés. Le troisième, c'est à peu près la même chose en plus calme, soi-disant. Il y a trois par cellule, ça aide, pour l'instant en tout cas.
Le deuxième étage est lui réservé aux détenus travailleurs, réputés plus calmes, car souvent portés sur leur réinsertion et la carotte des remises de peine. Une partie travaille pour le service général, activité liée à l'entretien et au fonctionnement de la prison. Une autre, pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires qui fabriquent des pièces destinées à l'administration elle-même. Mais la plus grande partie de ces forçats travaillent pour le compte d'entreprises extérieures privées, façonnage, conditionnement, montage, assemblage, petit usinage, qui se gardent toujours de s'en vanter sur leur site internet et leur catalogue. Les détenus n'ont généralement aucun moyen de savoir pour quelle boîte ils travaillent. À la santé, on travaille généralement pour Paris Façonnage, Lacoste, Dior et d'autres, souvent des marques de luxe, selon les périodes. Dans d'autres prisons en France, on peut travailler pour Bouygues, EADS, EDF, Givenchy, Bic, L'Oréal, Orange, Yves Rocher, Renault, Haribo, etc.
Cependant, il n'y a pas de contrat de travail en prison, puisque c'est interdit par le code pénal. Ce qui veut dire que pas de SMIC, pas de congé payé, pas de droit syndical, pas d'arrêt maladie. L'inspection du travail n'a pas le droit de se rendre inopinément en prison. Elle doit être invitée par l'AP, administration pénitentiaire. Autant dire, jamais. Les conditions de travail sont donc difficiles et les machines sont souvent vieilles, défectueuses et très dangereuses. Le travail pour les entreprises extérieures est généralement payé à la pièce, et ce sont les boîtes en question qui fixent les cadences horaires. En gros et en moyenne, le salaire va de 200 à 300 euros cantinables par mois, desquels est parfois prélevée une certaine somme sans accord du détenu pour rembourser les parties civiles de son affaire. Ils sont à peu près 260 à travailler, selon la santé. Pour autant de mètres carrés d'ateliers, ceux qui ne travaillent pas pour des entreprises extérieures mais pour l'industrie carcérale, à proprement parler, et la prison elle-même, gagnent encore moins et sont attachés aux tâches trop ingrates pour qu'un maton ou un employé sous juridiction du code du travail ne l'effectue lui-même. Laver la crasse, la merde, le sang, servir la gamelle, porter des palettes de cantine, etc. Cela rentabilise le fonctionnement de la prison grâce à cette manne financière d'un travail pénible et très peu rémunéré, mais violemment cadencé. Les entreprises privées, elles, s'offrent le luxe d'une délocalisation à domicile. Si l'AP présente le travail en prison comme une activité fondamentale pour la réinsertion future des personnes incarcérées, il n'y a en fait que chantage à la remise de peine et à la misère. Le travail est devenu nécessaire et beaucoup de détenus, car contrairement à certaines idées reçues, il faut de l'argent pour vivre en prison. Les repas sont immangeables et bourrés de calmants, donc il faut pouvoir cantiner, ce qui équivaut à faire des courses à la supérette de la prison à des prix exorbitants, y compris pour des produits de première nécessité. Entretien, hygiène, timbre, stylo, clope. Tous les dimanches, on remplit son bon de cantine et les produits ne sont récupérables que 9 ou 10 jours plus tard. Les produits, souvent dégueulasses et parfois à la limite de la péremption, sont vendus plus cher que dehors, 30% plus cher en moyenne. Pour la paix, c'est un vrai business.
En tôle, il n'y a pas de monnaie. Elle est interdite. Chaque détenu dispose d'un pécule virtuel, comme un compte en banque que l'on ne peut pas gérer soi-même. Ce pécule est alimenté par ce que le détenu avait en poche au moment de son incarcération, puis par des mandats cash ou virements provenant de l'extérieur, dont une partie, à partir d'un certain montant, est légalement volée par l'AP pour ses propres frais. En fait, tout est tellement cher qu'une grande partie des prisonniers a recours au petit troc plus ou moins consenti pour les fins de semaine difficiles. La monnaie d'échange la plus courante est le shit, mais aussi les clopes, le rechargement de batterie des téléphones portables et parfois les galettes de crack, mais cela est plus rare. La cam et les téléphones arrivent par le parloir ou avec la collaboration incontestable de la matonnerie. La tolérance de la paix est à géométrie variable étant donné que tout cela achète efficacement la paix entre détenus et AP, mais pas entre détenus, donc tout bénef.
La première chose qui est faite quand on arrive en taule, c'est la carte d'identification. Elle joue à peu près le même rôle que la carte d'identité dehors. Dessus, une photo prise à l'arrivée qui restera jusqu'à la fin, de sorte que l'on soit confronté chaque jour à la gueule des déterrés qu'on avait en fin de garde à vue. Un code-barre directement lié à l'empreinte biométrique de la paume de la main. Nom, prénom, numéro de crew, date de naissance. Il faut nécessairement la porter sur soi pour tout déplacement en dehors de la cellule et la montrer au maton quand il fait l'appel.
Les autres blocs sont en travaux et en ruines. D'où notamment la surpopulation si intense à la santé. Mais il y a d'autres bâtiments. Celui des semi-libérés qui doivent rentrer tous les soirs en enfer. 1 à 2 par cellule, seul bâtiment propre de la tôle. Et les divisions 1 et 2 qui ne sont composées que de cellules individuelles. Denrées rares à la santé, pour laquelle il faut s'inscrire sur une liste d'attente très théorique. En réalité, il n'y a que 3 façons d'obtenir une cellule individuelle. La compromission, c'est-à-dire balancer, être docile, lèche-cul et serviable. L'attente interminable, de 4 mois à 1 an d'attente en théorie, mais la paix a toujours le dernier mot, quoi qu'il arrive. Et rien n'est acquis d'avance ou garanti par un réel règlement. D'ailleurs, les détenus n'ont pas vraiment accès à un quelconque règlement intérieur, qui doit bien exister quelque part, histoire de dire. Et le troisième, c'est la lutte et les divers moyens de pression. Bloquer la promenade, les bureaux des directeurs et chefs de détention jusqu'à satisfaction. Il faut être déterminé et combatif, et réitérer fréquemment si nécessaire. L'avocat peut également exercer des pressions sur l'administration, mais on ne peut pas compter que sur lui. Il ne peut que vous appuyer dans ce que vous faites déjà par vous-même.
La première division et la deuxième division sont assez similaires, bien que la première soit plus propre et avec un cours de promenade plus adapté à l'être humain. Je précise que la promenade en prison, c'est de la merde, Barbelés, caméras, espaces confinés, entassements, une heure à tourner en rond et à se rentrer dedans comme deux ours dans une chambre de bonne. Et je ne tolère plus d'entendre sans cesse que les prisonniers sont enfermés, 23 ou 22 ou 25... Bon, je recommence. Et je ne tolère plus d'entendre sans cesse que les prisonniers sont enfermés 23 ou 22 heures sur 24. Non, les prisonniers sont enfermés 24 heures sur 24. Les cellules individuelles font 5,20 mètres carrés. On ne peut pas vraiment étendre ses bras en large, les fenêtres placées très en hauteur dans les cellules sont à la fois finement grillagées et barrées, si bien que lorsque l'on regarde à l'extérieur, on finit par loucher ou avoir mal aux yeux tant les mailles du grillage sont serrées. Tout est fait pour qu'on s'y sente mal et seul.
Trois fois par jour, la gamelle. 7h30, petit déjeuner, un minuscule rectangle de beurre, de la chicorée imbuvable, un sachet de lait en poudre et un sachet de sucre. Et le dimanche, une viennoiserie dégueulasse ou mal décongelée. Une baguette de pain est distribuée quotidiennement aux alentours de 10h30. 11h30, premier repas. 17h30, deuxième repas.
Une bonne partie des détenus, il faut pouvoir se le permettre, ne touche pas à la gamelle. Les repas sont toujours les mêmes. Abats, langue de bœuf, poisson non identifiable, saucisse tiède et mal cuite, plate gorgée d'eau, déraisonnablement grasse. La paix ne sert pas de repas adaptés aux végétariens. Les seules dérogations sont pour les halal et les kachers. Il faut alors s'enregistrer auprès d'un maton en tant que musulman ou juif. De plus, les informations tournent depuis ceux qui sont exploités en cuisine que des tranquillisants en poudre sont ajoutés au plat. Se nourrir exclusivement à la gamelle équivaut aussi à s'exposer à une diarrhée longue comme la détention, ce qui est fâcheux lorsque les toilettes sont partagées par 4 détenus dans une cellule maérée de 9 mètres carrés.
La gamelle et ses horaires relativement fixes participent au balisage temporel du détenu et à la routine insoutenable de la détention. Car tous les jours sont à peu de choses près les mêmes. Tout est à heure fixe. Distribution du courrier, de la presse, gamelle, promenade, distribution du pain, activité s'il y en a. Le détenu finit donc par se créer sa journée type, qu'il va répéter au loisir des juges. Le programme télé quotidien, l'heure du café, de la lecture, etc. Plus encore en cellule individuelle qu'au bloc, les prisonniers finissent tous par répéter une même journée standard, optimisée avec les moyens du bord. Pour se rendre compte de cela, il suffit de s'imaginer que l'on se réveille chaque jour dans la journée précédente et qu'on la recommence de bout en bout, jusqu'à finir par l'optimiser de A à Z. Cela rend fou très rapidement et on perd assez vite toute notion de la réalité.
En tôle, il existe une réelle psychose de l'évasion qui serait considérée comme le signe d'une défaillance extrême de l'établissement. Aussi, cet état provoque toute une série de contraintes au nom de la sécurité qui brise le principe de la loi censée limiter la détention à la privation de la liberté d'aller et venir. Elle explique la politique du porte-clés, ouverture-fermeture continuelle, la violation de l'intimité du détenu. Elle provoque et justifie le recours à des moyens de contrôle et de contraintes souvent humiliants. Plusieurs fois par semaine, les matons entrent en cellule au cri de « sondage des barreaux » et frappent les barreaux à l'aide d'un tuyau en métal. Souvent, le matin, pour garantir l'effet de surprise et vérifier que les barreaux ne sont pas limés ou fendus.
Les détenus ont droit, théoriquement, à 3 parloirs de 45 minutes par semaine. C'est plus que dans d'autres prisons. Et encore plus théoriquement, d'un parloir prolongé par mois. Bien sûr, les parloirs sont assez souvent soumis à l'arbitraire des matons qui ont tout un éventail de méthodes pour gâcher, perturber ou carrément annuler un parloir. Du côté des visiteurs, le maton peut très bien décréter arbitrairement le retard du visiteur ou du détenu et fermer les portes sans recours possible ou encore inscrire une autre heure que celle réservée par les visiteurs, ce qui annule le parloir de fait. Mais pas nécessairement toutes les emmerdes qui vont avec. Côté détention, les magouilles sont plus fines. La paix peut convoquer les détenus aux mauvaises heures, s'arranger pour que le détenu n'ait pas sa carte de circulation au moment du parloir.
Petit exemple pratique de la banalité du sadisme. Les balais sont interdits en prison, mais les détenus peuvent, pour une heure, échanger un balai contre leur carte d'identification. Le maton peut aller s'arranger pour ne pas vous rendre la carte à temps pour votre parloir, et les parloirs peut-être plusieurs jours plus tard. Ou carrément la perdre. Mais aller au parloir sans carte d'identification et donc sans vérification biométrique, c'est hygiaphone obligatoire. C'est-à-dire parloir dans une pièce étouffante de moins de 2 mètres carrés, dans laquelle le maton peut vous oublier pendant 3 minutes, 30 minutes, c'est sanction garantie. Avec plusieurs plaques de plexiglas rendues quasi opaques par la saleté entre vous et le visiteur. Une sérieuse difficulté à s'entendre et caméra pendant le parloir. Les gentils socialistes, pourtant si compassionnels, ont beau avoir interdit, sous l'égide de leur grand héros Batinder, les parloirs hygiaphones dans les années 1980. Ils sont toujours là, comme une énième sanction dans la sanction.
Le sexe est interdit aux prisonniers. Grâce à l'article de loi qui stipule « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait pour un détenu d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ». Les matons peuvent à loisir, et toujours selon leur humeur et leur bon vouloir, interrompre lourdement un câlin, un baiser, une caresse et autres marques d'affection. Et alors que la distribution des préservatifs est tolérée, le fait pour tout détenu d'avoir une sexualité est sanctionné par des peines de mitard et autres sanctions disciplinaires. La misère affective et sexuelle fait clairement partie de la punition.
Les parloirs se déroulent comme tout le reste de façon extrêmement répétitive. Sortie de cellule et appel, une demi-heure variable d'attente avant identification biométrique de la paume de la main et tampon UV sur l'autre main en file indienne. Le parloir surveillé par le maton qui vous empêche de recevoir de l'affection physique de vos visiteurs. Rebiométrie et UV, une demi-heure variable d'attente, une fouille à nu, vêtement par vêtement, cheveux, boucles, bouche, paume des pieds, puis selon l'arbitraire du maton, lever les testicules, écarter les fesses et attente plus ou moins longue que le maton rende les fringues au lieu de vous observer dans vos moindres recoins, toujours avec le « bonne journée » à la fin, régulièrement ponctué d'un « bonne journée monsieur le surveillant », très amical et complice. On appelle la phase de fouille à nu le « kilomètre de bite » ou, pour les plus inspirés, les « 24 heures de la bite », puis re-attente, plus ou moins longue et retour en cellule. Le parloir est tout de même assez éprouvant. On revient en moyenne d'un parloir programmé à 14 heures sur les coups de 16 heures ou plus.
Les détenus n'ont pas tous des parloirs car beaucoup sont isolés ou étrangers et loin de leurs proches. Pourtant, les parloirs sont souvent un poumon essentiel pour le détenu qui par définition est isolé et finit toujours par se sentir seul, même si par ailleurs il est très soutenu à l'extérieur ou très entouré à l'intérieur. C'est aussi pour cela que les mesures de rétorsion formelle, disciplinaire ou informelle et illégale sur la question des parloirs sont particulièrement efficaces et brandies comme un épouvantail par les matons.
De fait, les matons possèdent un pouvoir qui, aussi minuscule soit-il, peut réellement briser le moral du détenu. La température de la douche, par exemple, ne peut être réglée que de l'extérieur de la salle de douche, qui est bien sûr fermée à clé, donc par un maton. Une douche sur deux est donc bien trop brûlante pour pouvoir y passer la tête plus de 2 secondes, ou bien trop froide pour ne pas en sortir en grelottant. La distribution du courrier ou de la presse est tout aussi soumise au bon vouloir du surveillant. Celui-ci est bien conscient qu'un journal du matin perd tout son intérêt s'il est reçu à 19h. De plus, les matons ne brillent généralement que très peu par son intelligence. On peut aisément parler des débilités légères. On finit toujours par se retrouver avec les courriers du voisin et vice-versa. Il vaut mieux alors être en bon terme avec le voisin en question. Souvent, les courriers sont bloqués, censurés, perdus, saisis pour les juges ou la paix. Il peut mettre beaucoup de temps à arriver selon les analyses effectuées dessus, ou ne pas arriver du tout.
De même pour les courriers internes. Pour à peu près tout, il faut passer par le courrier interne. S'inscrire à une activité, demander une consultation médicale, faire une demande au SPIP, qui est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, s'entretenir avec un gradé vaguement décisionnaire, faire une réclamation, etc. Le courrier interne a la fâcheuse tendance à disparaître ou à être ignoré. Il faut parfois refaire le même courrier 10 fois pour obtenir une réponse. Alors souvent, on finit par abandonner. Là encore, c'est la flemme ou non du maton qui gouverne. Est-il prêt à bouger son gros cul ou non d'un étage à l'autre ? Parfois, la santé, les activités, Les demandes de parloirs prolongées en dépendent entièrement.
Et c'est la fin de cette première partie de la brochure « Comme un chien enragé ». Retrouvez la suite la semaine prochaine.
Psst, c'est la brochure.
La brochure.